Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et ce tort de douleur, du coup, j'ai découvert le sens de l'expression. Parce que tellement t'as mal, tu ne peux pas être statique. T'es vraiment... désolé pour l'audio guide, mais en gros, je me convulse.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie Debreuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-mort à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invité du jour a conseillé à notre dernier invité de partir voyager tout seul. Alors je me suis dit que ça devait forcément être une invitée parfaite pour Tourista, donc je lui ai demandé si elle voulait venir nous raconter ses histoires de voyage. Et elle m'a dit oui, avec plaisir. Une fois, j'ai réservé un hôtel et une autre fois, j'ai mangé une glace en Italie.
Grosse anecdote.
Ouais, on va pas mal voyager encore une fois aujourd'hui. Mais avant que Manon nous raconte ses aventures et qu'elle se présente en anglais... Bonjour Marie.
Bonjour.
Marie, est-ce que tu es prête à voyager aujourd'hui?
Je suis prête à voyager, oui. J'ai mon ticket.
Est-ce que la Lara Croft de YouTube est prête à nous faire voyager aujourd'hui?
Attention, la Lara Croft de YouTube, ce serait plutôt Charlie Danger, je dirais. Avec qui j'ai voyagé récemment.
Ah, très bien. Mais... eh bien alors Manon, est-ce que tu peux t'en aller s'il te plaît?
On appelle Charlie. On appelle Charlie. Mais je suis flattée néanmoins.
Premier exercice Manon, est-ce que tu pourrais te présenter comme si on était dans une auberge de jeunesse avec, donc en anglais, des gens qui ne te connaissent pas? Comment
ouais,
tu te présentes?
C'est toujours un grand moment ça, n'est-ce pas? Hi everybody, my name is Manon. Yeah, lovely French accent, so sexy. Wow, I know you love it. Something like that. Yeah, I'm a French YouTuber. I have a channel about history and I'm on holidays now, so please don't ask any question about that. I just want to enjoy my mojito. Thank you.
D'accord. Au début, on sentait pas trop
déjà d'emblée, tu sais, elle te fait chier. Tu vois. Elle se la raconte.
Ne me parlez pas, merci.
Ouais, c'est clair.
Au début, on sentait pas trop le bac plus 50 000 à la fin. Un peu plus.
Mais alors, attendez, parce que j'ai remarqué, tu parles en anglais, tu as changé un peu ta voix.
Ouais. Ah oui?
Un peu plus aiguë.
Ah, c'est vrai.
Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que tu fais ça, toi, quand tu parles? Hi, my name is Marie. Bonjour, je m'appelle Marie.
Quand je veux,
ah, c'est peut-être, hein.
Quand je veux un petit peu me la raconter, je crois que ouais, j'aiguise un peu. J'aiguise un peu, mais sinon... non,
à l'américaine.
Ou alors c'est la gêne, parce que j'assume à moitié, peut-être.
Alors que pourtant, fluent en anglais.
Super fluent.
Alors, Manon, parle-nous un petit peu de ce rapport au voyage avant qu'on passe au quiz. Alors, t'as un petit rapport au voyage?
Eh bien, écoute, j'ai de la chance parce que voyager, c'est quand même un très gros luxe, on le sait. J'ai de la chance parce que c'est les choix qu'on fait... Ma famille, tu vois, genre nous, on n'a pas une piscine dans le jardin, mais on a pas mal voyagé. Donc j'ai voyagé dès assez gamine avec mon papa notamment, et aussi avec ma maman. Mes parents sont séparés, mais avec ma maman et ma sœur, on a beaucoup voyagé jusqu'à ce qu'elle décède. Désolée, j'ai plombé l'ambiance directe. Mais bref, voilà, donc on faisait beaucoup de voyages ensemble, y compris adultes, jusqu'à assez récemment. Et du coup, c'était assez dans notre culture, et je suis trop reconnaissante de ça, parce que c'est... clairement énormément de chance de pouvoir le faire parce que ça coûte cher pour beaucoup de gens et t'as aussi de la chance de pouvoir voyager ne serait-ce que parce que t'as un passeport européen par exemple où plein de gens peuvent pas se déplacer facilement même s'ils en ont les moyens mettons. Donc ouais, donc du coup j'ai du bol parce que ma famille nous a un peu fait profiter de ça et je pense qu'après il y a peut-être des gens qui peuvent le faire mais qui ont un peu la trouille, du coup c'est pas mon cas et voilà.
D'ailleurs, il y a apparemment un petit voyage tout seul dont on va parler tout à l'heure.
Ouais, carrément.
Mais avant tout ça, Marie, c'est l'heure de ton quiz.
C'est l'heure du quiz, le quiz de... à chaque fois, ça me fait bugger hein, que ça s'appelle le quiz de Marie.
Je crois que t'es allé encore très très loin dans la thématique.
J'ai vraiment... Hein. Ouais, Julien, on s'était dit, mais quel thème on pourrait faire? Bon, allez, la santé. Mm-hmm. Du coup, pour Manon, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ah tiens,
une histoire, voilà.
Ouais. Surtout qu'elle a pas envie. T'as vu, quand elle est en voyage, elle a pas envie d'en parler, elle a dit. Hein.
Mm. Ouais, donc, puis surtout, tu vas être déçue probablement, parce que du coup, les gens ils s'attendent à ce que j'ai une bonne culture en histoire et pas du tout.
Mais fait. Du coup, ça vous met peut-être un peu plus sur un pied d'égalité.
Oui. Merci, alors, oui, merci de absolument. Me rabaisser direct, mais j'allais dire exactement. Voilà, j'allais me rabaisser tout seul en disant, moi, ça m'arrange si t'es pas très.
J'y vais direct. Alors, quel est le monument historique le plus visité au monde? Je vous donne des exemples et vous me dites lequel parmi ceux-ci.
Ouais.
Le château de Versailles, la cité interdite de Pékin, le mémorial de Lincoln, le Colisée ou le Taj Mahal.
Ah, je dirais le Taj Mahal, non? Tu dirais pas ça? Ça va, c'est pas trop histoire. C'est plus...
Alors,
oui.
Ouais,
je reste.
Non, mais du coup, j'ai pas honte de pas la savoir. Ça va.
Alors, je vais faire un par un. On a dit, le premier, c'était.
Après, peut-être le Colisée.
Le château de Versailles.
Le château de Versailles, je pense pas. Ah, quoique Paris, c'est vraiment. C'est...
La France, c'est le pays
c'est
number
le pays
one.
Number one du tourisme. Du tourisme.
Du tourisme.
Donc, je pense que ça peut plus être ça que Lincoln, par exemple.
Lincoln, j'aurais pas dit ça en
voilà,
tout cas.
Il n'y a pas la terre entière qui vient visiter le truc de Lincoln.
Bah, peut-être qu'on sera surpris.
Bah, peut-être. Mais j'essaie de... Bon, bah écoute, toi, tu pars sur le Taj Mahal.
Écoute, je sais pas pourquoi mon instinct me dit ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est la France et l'Italie doit être assez bien classée en termes de...
Le Colisée...
Touristes par an.
Moi, je dirais la France. Je partirais sur Versailles, moi.
Versailles.
Alors
qu'au
début...
Je garde le Taj Mahal au cas où.
Ok.
Vous avez tous les deux faux.
Yes.
C'est la cité interdite.
La cité interdite.
Ah bah voilà.
Et sachez que le château de Versailles est en deuxième position parce que là tous les noms, tous les monuments que je vous ai cités sont dans le top 8, un truc comme ça. Et le château de Versailles est en deuxième position, mais il y a quand même 10 millions d'écart entre les deux. C'est-à-dire que la cité interdite, c'est 18 millions de visiteurs par an avant Covid, évidemment. Et le château de Versailles, c'est 8 millions.
Incroyable quoi.
Ah ouais.
Mais je pense qu'en France, finalement, c'est le pays le plus touristique si ça n'a pas changé, mais comme il y a énormément de trucs différents, peut-être ça étale un peu le ratio de chaque monument, I guess.
C'est ça, tout à fait.
C'est bien parce que après les réponses, on a le développement des réponses. Non, et tout. Je vais être hyper fatigué à la fin de cet épisode, mais je suis ravi.
Deuxième question. Quelle est la plus vieille ville qui existe encore, peut encore être visitée, mais aussi qui est encore habitée aujourd'hui?
Plus vieille ville qui peut être visitée et qui est encore habitée.
Voilà. C'est-à-dire que c'est pas des ruines. Il y a des gens qui habitent encore.
Bah...
Si vous n'avez pas la ville, peut-être le pays.
Donc un truc
alors
antique.
On est plus en... Ouais.
Ah, non, bah non, égyptien. Non.
C'est pas en Égypte, non.
Ok.
En Grèce?
Non.
Qu'est-ce que ça pourrait être? Un truc... Mais une ville avant les Égyptes, un truc mésopotamien?
C'est peut-être pas forcément c'est le côté le truc qui peut être un peu tricky, ça va être le encore habité parce que je pense qu'on peut visiter des villes plus anciennes.
Les îles du Frioul à Marseille.
Petra?
Non,
c'est pas du tout là.
C'est Jéricho.
Ah,
Jéricho.
Voilà, c'est la petite c'était la question la plus difficile en termes de
j'avoue.
Elle est un peu hardcore, mais effectivement, c'est 9000 avant Jesus Christ. Pourquoi je l'ai dit en anglais? Aucune idée. Mais c'est la plus ancienne ville qui a été continuellement habitée. Mmh. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 20 000 habitants dans cette ville. Mmh. Voilà.
Oh, ben on a tous les deux appris quelque chose.
Bah, grave.
Et vous avez tous les deux 0 points.
Toujours aucun point.
Ensuite, là, ça va être plus... va falloir deviner quelque chose parce que le 10 août 1519, Fernand de Magellan a fait pour la première fois dans le monde un voyage particulier qui aujourd'hui peut être fait par tout le monde. C'est une sorte de voyage, un parcours en particulier. Mais c'est le premier au monde à l'avoir fait.
Magellan, c'est pas du tout genre Pacifique et
par là. Il l'a fait à la rame.
Détroit de Magellan.
Non, c'est pas à la rame, mais t'es dans le...
Je suis nul en géo.
C'est pas forcément le moyen de transport.
Il l'a fait à la voile.
Non, c'est pas forcément le moyen de transport.
En ballon.
C'est le parcours.
Ah,
mais qui est un grand parcours.
Il a fait une route.
Un tour du monde.
Et voilà, c'est le premier à avoir fait
tout
le tour du monde. Exactement.
Stylé.
Il y a eu un premier.
C'est vrai, tout le monde peut le faire.
19, t'as dit.
Ah bah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus accessible maintenant de faire le tour du monde avec
un
avion.
Ou en tout cas, c'est celui qu'on a enregistré, ouais, carrément.
Et alors, il faut savoir qu'ils sont partis, je vous donne les petites infos, ils sont partis à 5 navires avec 237 personnes de Séville pour arriver à Séville.
Et combien à la fin?
Et c'est combien à la fin? Plus que 18 membres de l'équipage sur un seul navire. Et ils sont rentrés donc, en 1522, donc 1922.
Deux ans. Pas du tout, trois.
Ouais, ils ont mis trois ans. Et surtout, c'est que Fernand, ce bon vieux Fernand, est décédé pendant le voyage. Ah, mais... Donc il a commencé son tour du monde, il l'a pas fini, mais l'équipage avec
l'équipage
lui,
a fini le tour.
A fini le tour.
Coup, incroyable.
C'est, pardon, mais c'est pas homologué. Hein. Excusez-moi.
Non, non, le Guinness a dit non. Ah bah oui, c'est autre chose à l'époque, c'est clair.
Trois ans. Là, là ils ont... j'ai interviewé quelqu'un qui a fait le Vendée Globe, là.
Ouais.
Ils l'ont fait. Donc lui, il l'a fait quatre fois d'affilée. Le Vendée Globe, c'est tous les quatre ans. Il a réussi à le faire quatre fois d'affilée, alors que normalement, il y a 50% des gens qui le tentent, qui abandonnent. C'était en solitaire, ah, et c'était à la voile et tout. Mais lui, il l'a fait en 90 jours, tout seul, dans sa petite boîte et tout, 90 jours. Il avait plus, ouais. Oh, et voilà.
Et alors, il est arrivé à sociabiliser encore. Il te parlait normalement.
Ouais, non,
coupé
en fait,
du monde pendant aussi.
Non, mais en vrai, ils sont jamais coupés du monde maintenant avec les, ils ont WhatsApp et tout ça, quoi. Mais
les WhatsApp,
quoi.
Et les internet.
Dernière petite question, c'est encore un homme qui est entré dans l'histoire dont on ne connaît pas forcément le nom, mais c'est beaucoup plus récent. Il s'appelle Denis Tito. C'est un homme d'affaires californien d'origine italienne. C'est un millionnaire. Et il a été connu récemment pour avoir été, encore une fois, le premier quelque chose. Mais c'est très récent, du coup.
Très récent.
Dans le monde du voyage.
Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc,
comment on peut... Oui.
Un truc nouveau, là,
avec un transport qui n'avait jamais été fait?
Ouais, c'est le premier... Enfin, c'est pas le transport qui n'a jamais été fait.
Un ballon très très haut?
Non. C'est pas le transport. Il y a d'autres personnes qui l'ont pris, ouais. Mais pas dans... Le même but que lui.
Mmh. Oh là là.
Donc déjà, trouvons le transport. Bah, un avion.
Et surtout, peut-être trouver là où il est allé.
Là où il est allé. Bah, il est allé dans la stratosphère.
Effectivement, c'est ça.
Ah, c'est un touriste
de
l'espace.
C'est le premier touriste de l'espace. Et c'était en 2001.
Et c'était dans un... C'était quoi? Parce que j'ai dit un ballon, mais c'était quoi? C'était un avion? C'était...
Non, non, il est parti avec... Mais en tant que touriste, il est parti jusqu'à
Thomas Pesquet.
Ah, non. Il est allé sur l'ISS?
Ouais. Mais c'est le premier touriste, il avait aucun but d'y aller.
Attends, là, c'est un millionnaire, quoi.
Il y a déjà eu des touristes sur l'ISS, dans l'ISS?
Bah, apparemment, avec beaucoup d'argent, quoi.
Ouais, mais je croyais que ça avait pas...
Ouais, faut être riche, quoi.
Bah, faut être riche, mais là, ça commence. Là, ça commence.
Oui, sur le bon coin, j'ai vu des petites réductions et tout. Non, mais... Ça commence à se démocratiser.
Sur Booking, la chambre, elle est à 500 balles, franchement.
Oui, le bon coin.
C'est dans...
La blague ratée. Vraiment nul.
C'est dans la bucket list de Mathias Dandois, notre premier invité, qui veut bientôt le faire.
Ouais, bah, va falloir qu'il en fasse un peu plus, je pense, des parce que financièrement, pour y aller, voilà, faut être millionnaire californien.
Ça va baisser un peu. Ça va baisser avec Elon Musk.
Ouais, c'est ça, Elon, ouais, ça. Un peu de stop.
C'est la fin du quiz de Marie.
Bah, on a rien trouvé. Ah si, toi, t'as... Bah si, t'as trouvé.
Si, Maxime, t'as trouvé les deux dernières.
Je suis désolé, Manon.
Bah, écoute...
La Lara Croft de YouTube, là, il va falloir
mais
qu'elle...
C'est pas moi, une imposteur jusqu'à...
Bon, alors, on commence par quoi, de tes aventures de voyage? J'ai vu, alors, j'ai fait la liste sur tes Insta. Mm-hmm. Tu les laisses à la lune. Il y a Tenerife, l'Indonésie, le Japon, Tahiti, Bratislava, Vienne, Bucarest, Pompéi et Amiens.
Oui.
Que tu as laissé au milieu de tout ça.
Moi, je pense qu'on commence par Amiens.
On fait un petit bisou aux Amiennois. Mais en fait, c'est parce que j'avais une émission qui s'appelait Les Villes au détail et où on présentait des petites curiosités de chaque ville, mm-hmm. où on essayait de montrer autre chose que le truc méga connu, touristique et tout. Du coup, dans le cadre de cette émission, on a eu pas mal voyagé avec mon cadreur, Barthélémy, que j'embrasse. Mais en fait, finalement, ça, c'était extrêmement exténuant. J'ai arrêté cette émission, notamment parce que, en fait, on profitait pas du tout. Alors, les gens ont l'impression que trop bien, tu voyages pour le boulot et tout. Mais en fait, on faisait vraiment une nuit ou deux sur place et on sillonnait la ville en courant tout le temps pour tout filmer, les petits trucs qu'on voulait trouver. En plus, on arrivait sur place régulièrement. Il y avait plus que j'avais repéré sur Internet, tout machin. C'était un peu éprouvant. C'était énormément de montage et de dérush et tout. Et du coup, comme on profitait pas plus que ça et que j'en avais un peu marre et que j'étais un peu frustrée parce que ça allait pas assez loin dans le contenu, c'était vraiment anecdotique, on a clos cette émission. Mais du coup, il y avait un épisode sur Amiens aussi, donc sponsor par la ville d'Amiens. Du coup, il y a Amiens dedans, je l'avais mis aussi. Voilà. On a fait le Havre aussi. Et oui.
Est-ce que tu nous reco Amiens?
Et bah franchement, ouais, carrément, c'était hyper mignon. J'ai découvert à l'occasion, mais il y a les ortillonnages qui sonnent très jolis. Ah. Je sais pas pourquoi je prends un accent du sud, alors qu'Amiens, je pense plutôt toi, accent du Nord, là, je peux le faire. Je vais être trop forçante. Mais oui, non, carrément, c'est très mignon. Après, c'est sûr, ça n'a pas fait le même effet que Bangkok, mais c'était cool.
On peut comprendre.
C'est très bien.
J'avais vu Bangkok. J'avais pas vu Amiens, j'avais vu Bangkok, mmh. J'ai vu la Polynésie aussi. Mmh.
Et... Oh, oui, mais... et là, c'est la seule fois où on a un peu fait duo le voyage.
Parce que j'allais te dire, là, ils te recontactent, voilà. Ils te disent je veux une vidéo pour que tu fasses un peu le guide touristique original, t'y vas pas?
Non. J'ai d'accord. Plus envie de faire ça. On pourra trouver autre chose, un sujet historique sur place, avec un sujet à fouiller ou quoi, mais le truc des anecdotes, je m'intéresse plus trop, je vais dire.
Ouais.
Mais oui, non, alors la Polynésie, en effet, là, on avait rajouté, en dehors de la session de tournage, des sous de notre poche pour profiter un peu sur place, parce que tu fais pas 24 heures d'avion pour
faire deux
nuits, courir partout et terminer ton tournage. Mmh. Du coup, on a mis de notre poche pour aussi profiter du voyage. Mais c'est la seule fois sur... ce séjour Bangkok aussi, c'était le cas. Voilà.
J'avais fait une série de voyages au Vietnam où j'ai tourné pendant un mois quasiment non-stop. Où, pareil, c'était hyper intense. Après ça, je me suis fait deux semaines de kiff au Sri Lanka, sans caméra, sans rien. Ouais. Parce qu'effectivement, t'es toujours un peu focus sur ce que tu dois...
c'est ça.
Ce que tu dois shooter, les rencontres que tu dois faire, le stress et tout. Et en vrai, t'en as des bons souvenirs, mais ils sont pas aussi authentiques parce que t'es pas à 100% dans ton voyage, t'es hyper focus sur le taf aussi, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est fatigant, en vrai, et tu profites pas tant que ça. Alors, c'est sûr que c'est chambé, comme boulot. Évidemment, c'est trop bien, mais...
Qu'est-ce qui te guide sur quand tu choisis ton voyage? C'est quoi? C'est le musée, le meilleur musée qu'il y a dans l'endroit? C'est quoi ton moteur? Parce qu'il y a eu des moteurs teufs, on a eu plein de choses. Je me suis dit, là, ça va peut-être être un peu différent au niveau culture.
Ça va pas être ça qui va me faire choisir la destination. Par contre, du coup... Enfin, ça dépend où on est, mais par exemple à New York, oui, c'est sûr, moi je vais aller au MoMA, je vais aller au Met, voir les gros musées de fou. À Londres, le British Museum, c'est juste incroyable et tout. Enfin, c'est parce qu'on a allègrement pillé tous les gens qu'on a colonisés, mais voilà. Mais du coup, c'est pas vraiment ça qui me fait choisir la destination, parce que du coup, c'est à part et c'est 100% plaisir et pas pour le boulot. En 2016, je suis allée en Thaïlande et c'était la première fois que j'allais en Asie du Sud-Est de ma vie. Mmh. Et là, ça m'a vraiment fait un « waouh, c'est trop trop bien, j'adore » et tout. Et donc, là, la pandémie fait que pour l'instant, on peut pas y aller. Mais ça, c'était en 2016. Ensuite, je suis allée au Cambodge toute seule, le fameux voyage toute seule.
C'était
pour le plaisir. J'avais besoin d'un peu partir et faire un petit break. J'étais en plein dans ma thèse et tout, mais voilà. Et je m'étais dit, j'ai envie de voyager toute seule pour kiffer. Et aussi, j'ai fait cet exercice pour la première fois de ne rien planifier avant.
Ah d'accord, parce que normalement...
Exprès. Mmh. Quand tu voyages seule, toi, tu planifies tout?
Non, j'allais te poser la question. Ça dépend, non plus maintenant. Enfin, maintenant, je le laisse un peu guider. Ouais. Les premiers jours, je sais ce que je fais. Mais ensuite, surtout quand je voyage tout seul. Ça se joue souvent aux rencontres que tu fais sur place. Du coup...
Exactement. En fait, j'avais envie de faire ça. Parce que
t'avais peur quand t'es partie toute seule ou pas?
Non, franchement, non. Enfin, j'ai eu un peu le stress avant d'y aller. Ouais. Et puis, je me suis dit, si c'est la merde et que vraiment c'est la panique, tu rentres. Et puis, voilà, c'est tout. Et...
Le rationnel.
Non, mais parce que, encore une fois, j'ai la chance de pouvoir... j'aurais pu m'acheter un billet si j'avais été trop, trop mal et rentrer plus tôt. Donc, ça aussi, c'est du luxe, mais d'accord. Mais je me suis dit, tu vas kiffer pour toi. Et ça allait bien dans le mood d'une rupture où tu te sens comme une merde, tu sais, et tu... En fait, tu t'es fait larguer par quelqu'un que t'aimes et du coup, t'as plus la validation qui est la plus importante de ta vie, nana et tout. Et là, tu te dis, je vais faire les trucs pour moi et rien que pour moi. Et j'avais décidé de faire ce truc de, je ne réserve rien et je ne prévois rien et on verra ce qui se passe. Parce que toutes les autres fois où j'avais voyagé, soit avec des potes, soit en couple, on avait tout réservé avant, on savait notre circuit et tout. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois où tu faisais, ah putain, on aurait trop fait ce truc ou ça avec les gens à l'auberge qu'on vient de rencontrer, mais en fait on a réservé ce spectacle-là ce soir et du coup on peut pas venir avec eux. Enfin, tu vois, ce truc-là. Et là j'avais fait, ok, je fais exprès pour le lâcher prise aussi de la vie, tu vois. Et c'était trop bien. Et je pense que c'est un pays où... Enfin, c'est une région, l'Asie du Sud-Est, où en tant que meuf, c'est confortable parce que t'es jamais une main au cul, jamais un mot désagréable ou éventuellement par les touristos blancs, mais c'est tout, tu vois. Enfin, bref, ça, c'est hyper agréable. Donc, ça me rassurait pour mon premier voyage vraiment seul, loin et tout. Et c'est aussi très bon marché pour nous. Du coup, tu peux faire ce truc où tu réserves le soir même pour un truc. Là où, en fait, j'ai voulu le refaire au Japon. Mais tout le monde m'a dit non, fais pas ça au Japon parce que ça va te coûter un bras si tu réserves tout dernier moment. Plus ce sera complet, plus les Japonais ils vont réserver plus à l'avance. Alors que là, comme c'est extrêmement touristique et bon marché, en tout cas,
et puis c'est très propice aux voyageurs, ça en sac à dos qui sont là en route, quoi.
Exactement. Donc, j'ai fait ça et en fait, je suis arrivée du coup un petit peu en PLS de la vie à ce moment-là et un petit peu genre. Ok, c'est parti, j'y vais et tout, le petit sac à dos, gros sac à dos d'ailleurs, parce que comme une andouille, je sais pas voyager léger, là, je suis ce genre de meuf, bref. Et en fait, dès le premier soir, je m'installe à la terrasse de l'hôtel, parce que je suis complètement en décalage horaire, n'est-ce pas, et je rencontre des Anglais qui sont là, et ils me disent « Ah, salut, tu fais quoi? Tu voyages tout seul? Ouais, tu veux voyager avec nous ?» Ok.
C'est magique.
C'est toujours comme
ça. Mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et tout a été comme ça tout le temps. Donc j'ai passé 4 jours avec eux. On est allé voir les grands temples.
Siem Reap.
Encore tout ça, Siem Reap, exactement. C'est... Au bout d'un moment, j'ai fait. J'en ai un peu marre d'être avec un groupe parce qu'eux, ils étaient 4. J'ai les inconvénients de voyager ou avec des gens où il faut se mettre d'accord sur ce qu'on fait et tout. Du coup, je leur ai fait. C'était trop cool. Je vais changer de ville un peu, mais on se retrouve plus tard. J'ai changé de ville. Je suis arrivée à Sihanoukville. Et parce qu'un pote me l'avait conseillé, donc j'arrive, et là c'est le premier soir toute seule, et je me dis t'as eu de la chance la première fois, t'as rencontré des gens tout de suite, mais là peut-être ça va pas se passer comme ça, c'est pas grave si tu passes 2-3 jours toute seule. Et je vais au resto, et au resto le barman il me dit « Hey, est-ce que ce soir tu vas à Kiafofo ?»« À quoi ? À Kiafofo ? Mais c'est quoi ? C'est une partie dans la jungle ?» Ok. Et du coup, je me suis retrouvée dans une teuf clandestine au milieu de la jungle qui était comme un genre de tout petit Burning Man avec des constructions. Ah, c'était énorme, c'était trop bien. Mais juste parce que je suis allée au resto et que le patron m'a dit ça, tu vois, et trop cool. Donc voilà, c'était un peu comme le cliché de Burning Man avec des gens avec des paillettes sur la tête et des constructions en bois, tu vois. Mais c'était trop bien. Et du coup, je me dis, fais-toi des amis. Je prends deux mecs au hasard qui étaient dans la foule et je fais « Hey, salut !» Je peux traîner avec vous? Ouais, on a passé 4 jours ensemble. Voilà.
Trop bien.
Non, trop... Tout était comme ça. Donc, eux, c'était des Américains. On s'est retrouvés sur les petites îles en face. Et puis, pareil, au bout d'un moment, je suis allée. Moi, je repars de mon côté. Je prends un bus pour aller à Kampot. Dans le bus, je rencontre des Français. On a passé 2-3 jours ensemble. Et ainsi de suite. Et jamais, j'ai pas passé 24 heures toute seule, en fait. Jamais. C'était fou.
Je trouve qu'en plus, le Cambodge, j'ai fait aussi toute seule le Cambodge. Et je trouve que c'est vraiment le mix parfait entre des distances pas trop grandes, si t'as pas énormément de temps pour voyager. Et à la fois, t'as des temples, des trucs magnifiques à voir et une histoire de ouf.
Ouais, des trucs durs aussi.
Des trucs durs, oui, mais c'est hyper intéressant.
Ouais.
C'est ouf, mais t'as pas que ça. C'est-à-dire, si t'as envie d'aller te faire une petite île, tu prends un bus et t'as la plage, t'as la teuf, etc. Et le pays est pas très grand.
C'est vrai.
Et du coup, tu peux vraiment, en 2 semaines, te faire un bête de tour. Et enfin, je trouve que c'est pareil quand j'ai des potes qui me disent je sais pas trop où aller, j'ai que 2 semaines, je suis tout seul, machin. Je trouve que le Cambodge, c'est vraiment un mix and twist parfait, quoi.
Carrément, c'était très agréable. Enfin bref, mais j'ai hâte de pouvoir refaire un petit séjour.
Donc t'as validé le voyage toute seule et tu veux le refaire et tout, trop bien.
Et avec ce truc où on verra ce qui se passe.
Ouais,
tu bookes rien et tout. Il y a autant d'autres voyages où je pense que j'ai besoin d'organiser, notamment le Japon que j'ai fait après, où à mon avis peut-être moins facile de faire ça ou très très cher si tu prends au dernier moment. Mais là, très envie de refaire ça.
Ouais, et tu nous diras si ce truc-là, parce que moi j'ai fait un premier voyage toute seule en Amérique du Sud et après un deuxième en Asie. Et le deuxième, j'avais plus envie d'être toute seule et il y a plus de touristes. Du coup, effectivement, il y a toujours ce truc-là, je rencontre tout le temps des gens et c'était hyper facile et c'est très agréable. Mais du coup, je m'étais retrouvée dans le truc de là j'aimerais vraiment bien être toute seule. Justement, 24 heures, 48 heures, ça me ferait pas de mal de... vous faites la fête. Ah ça a l'air super, je vais dormir.
Oui, c'est vrai que ça...
Ça se trouve, le deuxième ou le troisième, t'auras envie...
Je l'ai fait au début de Bali, parce que j'avais dit à ma sœur, je veux quand même avoir quelques jours toute seule. Et du coup, je m'étais pris une loge juste pour moi, mais j'avais pas pris dans une auberge, j'avais pris dans un petit truc peinard. Un peu ça, c'est vrai. Juste 3 jours, mais du coup, ça compte pas. Mais c'est vrai, j'avais un peu ce truc de... Non, là, je suis avec mon livre à la plage, ok ? Ne parlez pas. Je vais manger trop bien, toute seule, ce que je veux, dans mon resto, et puis c'est tout. Et oui, carrément.
Je me souviens aussi du voyage que j'ai fait tout seul au Cambodge, mais alors moi je revenais de Thaïlande où j'étais à la Phnom Party, j'arrive et là c'était pas à Phnom Penh, c'est pas la grosse ambiance, hein, ouais. J'ai voulu essayer. D'habitude c'est pas trop la culture qui me guide dans mes voyages. Bon, je me fais quelques musées, etc., mais là je me suis dit allez, c'est bon, je vais aller apprendre ce qui s'est passé avant que je sois né et tout ça. Enfin bon, là pour le coup même pas quoi, mais bon, alors je vais le dire avec mes mots d'enfant de 4 ans, mais donc il y a dans les années 70 il y a des communistes qui sont venus,
les Khmer rouges,
flinguer les intellectuels, les gens qui avaient des lunettes, les médecins, et les torturer, les mettaient dans des camps et tout ça. Et voilà, et donc
t'as vu le camp avec tous les crânes entassés?
Oui, parce que du coup, il y a deux sites qui sont connus, t'as la prison et les killing fields.
Le camp d'extermination, littéralement. Et ça date d'hier, quoi. Ouais, c'était fini dans les années 70-80, je crois.
C'était il y a très peu de temps.
C'est fou, hein. Ouais.
Et surtout, tu te rends compte que ça a encore des conséquences aujourd'hui sur le pays, évidemment, tu vois, d'avoir tué tous les intellectuels, voilà.
Ouais, tu vois, c'est beaucoup plus pauvre que la Thaïlande et le Vietnam, clairement, ça se voit.
Et même, on voit pas tant de personnes très âgées dans les rues, etc. C'est... Franchement, l'histoire, elle est hyper marquante. Ouais. Et surtout, alors, que ce soit les killing fields ou que ce soit la prison... J'ai pris des petits guides dans les oreilles et tout. Et parfois, les guides, ils sont bien faits, parfois, ils sont pas bien faits. Et là, ils sont hyper bien faits. Les traductions sont trop bien.
T'as les voix des gens qui racontent et tout. Parce que comme c'est très récent, il y a plein de...
Il y a plein de témoignages.
C'est vraiment hier, quoi. C'est vraiment... Mais c'est assez... c'est
ça fait
sacré,
chialer,
ça.
Si vous voulez aussi.
Clairement.
C'est l'alarmiche.
C'est grosse...
Après une rupture, se faire un petit musée de Phnom Penh pour être bien enfoncé, c'est pas fait. Et du coup, avec ces petits audioguides, j'avais une autre question. Est-ce que quand tu arrives dans des villes, parfois, est-ce que tu fais les visites, tu sais, guidées qui sont un peu gratuites, où tu donnes un peu des sous à la fin? Ça te parle pas? Moi, j'ai déjà fait ça en Colombie, à Bogota, où tu vas visiter un peu, tu vois, les œuvres culturelles, enfin, tu vois, les street art, les statues, où on t'explique un peu.
J'ai jamais fait ça.
D'accord, bon, bah alors, pas de
question.
Et quand tu vas visiter un musée, tu prends la visite guidée aussi ou pas? Est-ce que tu corriges les gens derrière?
Non, surtout pas. Et puis surtout, encore une fois, moi j'ai un champ de compétences très précis. Tu sais, quand tu as fait une thèse, tu as bossé sur un truc en particulier, mais le reste, je peux rien te dire sur le Moyen-Âge. Hein. Vraiment, qu'on soit clair. Donc, trop pas. Mais en fait, je pense que pour mes vacances, je fais pas masse la culture, tu vois. Je fais la fête et voilà quoi, on se détend.
Avant qu'on passe à tes anecdotes, j'ai encore 2-3 questions. J'ai essayé de te poser une colle. Imagine que je te donne une machine à remonter dans le temps. Tu choisis la destination et l'époque. Manon, à toi.
Alors, j'ai eu l'occasion d'en discuter une fois avec Cyrus... North dans
mon podcast qui s'appelle Tourista 2. Oh merde.
Dans son podcast, le meilleur podcast. Oui. Mais en fait, on se disait, et je crois que ça. Ouais. En fait, moi, je pense que ce qui serait fou à voir, ce serait les autres espèces humaines. Donc, tu remontes le temps très très loin et tu vois d'autres. C'est parce que maintenant, il y a.
Néandertal
et tout. Voilà, par exemple, l'Australopithèque et tout, tu vois. Et ça, je me dis, ça doit être une expérience vraiment. C'est une cannibale un peu de... Tu vois, un peu comme déjà quand tu vois un grand singe, ça, c'est un peu perturbant parce que ça ressemble beaucoup à l'humain. Et ça, je me dis, ça doit être fou de voir comme nos cousins qui ont disparu. Ça doit être vraiment un truc... Enfin, je sais pas. Si j'avais un truc que je pourrais faire, je pense que ce serait ça. J'imagine qu'on pourrait pas communiquer ni rien, mais voir les autres humains et tout... Je sais pas.
Ça serait facilement, je pense. Et du coup, t'aurais une deuxième, vu que tu l'as déjà dit dans un autre podcast. T'aurais
une deuxième. Mais sinon.
Mais c'était très bien. C'était juste pour faire un bon.
Attends, mais du coup, moi, j'ai envie qu'on se pose la question. Alors, parce que dans ce choix. Est-ce qu'on vient en. Moi, je suis Marie 2021. Mais je m'intègre tranquille, quoi.
Bah, j'en sais rien, c'est juste t'as une machine à remonter dans le temps.
Oui, en vrai, déjà t'es une meuf, tu vas n'importe où, l'enfer, tu vois.
Ou je suis un peu invisible. Attends, mais quand est-ce que j'irai, moi?
Non, c'est juste tu peux voyager, mais en plus dans le temps, tu vas où et tu choisis l'époque, quoi.
Mais en plus, je pense que... Toi, t'as une réponse ?
Ah non, non, je sais
pas. Non, tu sais pas ?
Non, moi, je... Bah, non, moi, je... non, j'ai pas de réponse.
Je pense que j'aurais... moi, j'ai envie de faire des trucs trop nuls. J'ai envie d'avoir 25 ans, mais dans les années 60, c'est...
Mais pourquoi pas voir.
Ouais, mais oui, mais du coup, c'est vraiment
oui,
récent.
Oui, j'ai pensé, c'était 70 aussi. J'aurais
d'être ma mère.
Bien à Woodstock.
Non, mais trop, ouais, ça, voilà. Des trucs... Mais de ouf, bien ouais. sûr. Moi, Boris Vian, j'aurais trop aimé écouter cette génération-là. Enfin bon, pareil, il faudrait réussir à rentrer dans leur groupe aussi, t'es mignon. Non, mais je veux traîner avec Picasso. Si, si. Si, prenez-moi.
Tu peux tout faire ce que tu veux dans ma machine. Tu peux,
ouais, voilà, un golden ticket voilà. et tout. Et je sais pas où tu veux. T'aurais fait quoi, toi, Maxime ?
Moi, je pense que c'est dans le futur que, j'ai une curiosité. Trop. Quand j'ai voilà. Mm. Moi, j'ai malheureusement manqué d'attention quand j'étais en classe sur les cours d'histoire et tout ça. Et en gros, j'avais l'impression que... On me parlait de films que j'avais pas envie de voir et voilà et
non,
en
non,
gros
oui.
maintenant je suis hyper passionné, enfin j'adore qu'on me raconte des trucs et tout, mais j'ai pas ce truc que notamment bah, mon meilleur pote, il est passionné d'histoire, il adore, il
les
a hâte d'aller voir
fléau, ouais.
Et ben voilà,
malheureusement, enfin attention, ils sont pas tous comme ça, hein, bien sûr, mais
non, mais après moi j'ai
c'est un souci,
j'ai des troubles de l'attention et je savais pas qu'il fallait écouter. Maintenant je sais,
ça me l'avait dit aussi,
mais non, mais c'est vrai,
voilà. Alors qu'avec le recul perso, pour moi ça fait partie des cours où c'était les seuls que j'écoutais, moi, pour le coup, mais j'ai rien retenu, hein. C'est juste ça m'intéressait sur le moment, mais
c'est normal de ne pas retenir si tu n'entretiens pas. Moi, je ne retiens pas. Tu sais, même des trucs dont j'ai parlé en vidéo d'il y a 5 ans, j'ai oublié. Hein. Si tu n'entretiens pas,
j'ai vraiment pas retenu. Genre...
Ouais, bon.
Mais bon, c'est pas grave, hein, je m'en sors très bien quand même au quotidien. Mais pour moi, ça fait partie des trucs où justement, c'est entre guillemets le plus important. Parce que, par exemple, les mathématiques, ça va être très important pour certains métiers, etc. Mais alors, en tant que citoyen de la France, qui a le droit de vote en France, par exemple, de savoir l'histoire du pays et du coup, ce qui s'est passé avant... Ça a un vrai enjeu sur. Enfin, je trouve.
En fait, l'histoire,
que...
ça sert à comprendre où on est maintenant. Oui. Pourquoi c'est comme ça autour de nous maintenant, c'est quel a été le chemin qui nous fait arriver là, en gros. Donc, oui, moi, c'est sûr que je ne vais pas te dire le contraire. Convaincu de l'utilité, c'est sûr. C'est sûr
mais voyager aussi, les gars. Voilà.
Mais de ouf. Oui, totalement.
Les voyages.
Enfin, quand on peut, mais.
Quand
oui,
on peut,
carrément.
Oui.
Une autre question, même si t'aimes pas trop, t'aimes plutôt faire la teuf en voyage, tu peux quand même nous recommander. Ton musée préféré dans le monde de ce que tu as déjà fait ?
Eh ben, je pense que je dirais le British Museum parce qu'il est incroyable et vraiment très beau. C'est bon,
c'est l'équivalent du Louvre ou pas ? Ou c'est,
ouais,
t'as tout,
exactement.
Ouais.
C'est un Louvre, alors c'est moins gros, c'est quand même très très fat, c'est gratuit. Les musées publics en Angleterre, ils sont gratuits. Donc c'est quand même vraiment chambé. Et alors après, s'il est aussi beau, encore une fois, c'est parce que au 19e siècle, les Européens ont pillé allègrement tout autour et ça fait beaucoup débat sur notamment des trucs qu'ils détiennent, notamment ils ont les frises du Parthénon qui faisaient le tour d'un très beau temple en Grèce et maintenant à Athènes, il y a un parfait musée pour les accueillir qui fait depuis des années. On peut les récupérer maintenant, c'est bon. On a ce qu'il faut pour les accueillir. Le British Museum, comme c'est un peu un truc star du musée, ils font... Non, mais on va le garder encore un peu et tout. Donc voilà, ça pose des questions comme ça. Mais en attendant, du coup, c'est un endroit magnifique et gratuit. Si on peut aller à Londres en ce moment, on peut pas. Mais voilà. Et non, oui, celui-là, il est fou. Et je crois qu'un autre musée qui m'a marqué, c'est aussi le MoMA à New York. Donc là, c'est art contemporain. Mais peut-être parce que c'était barré. Je suis pas ni anti ni spécialement réceptive à l'art contemporain, mais c'est quand même toujours assez marrant, au moins je trouve. Donc je crois que celui-là il m'a bien marqué, ouais. Voilà. Mais bon, British Museum, assez fou. Il y a la pierre de Rosette, avec un mur de japonais devant, mais la pierre de Rosette qui a permis de traduire les hiéroglyphes.
Ah d'accord.
Qui nous a permis de comprendre. C'est une grosse pierre qui a. Enfin c'est pas. Tout ne vient pas de là, mais qui a beaucoup aidé à l'archéologue Champollion à comprendre, parce que il y a un texte qui est écrit en je sais plus quelle est la première langue, en grec et en égyptien.
Okay.
Et du coup, comme il connaissait les deux langues, numéro 1 et 2, le grec et j'ai oublié l'autre, il a fait « Ah bah attendez, c'est le même texte, traduction, ah bah du coup on va peut-être enfin pouvoir comprendre les hiéroglyphes » et voilà. Donc il y a ça au British Museum, gros caillou, spécialement spectaculaire en soi, mais qui est un sacré truc. Il y a des immenses momies, il y a des trucs... Enfin, bon, c'est très beau. Voilà.
Je En parlant de momie, ça m'a. T'es allé à Pompéi. Moi, j'avais fait l'expo à Paris de Pompéi, mais t'es allé vraiment.
En parlant de momie.
Oui, bah, c'est
pas la même chose.
De gens figés dans le temps.
En fait, c'est ouf. Tu vois des gens qui sont pris la lave dans. Enfin, non, c'est c'est pas exactement de la lave qu'ils ont pris, ils ont pris des pierres ou du. Bon, je sais plus comment ça s'est passé.
Ouais, je sais pas exactement non plus d'ailleurs.
Bon, j'étais à l'expo il y a pas longtemps, je devrais savoir, je m'en souviens plus trop. Mais en gros, ouais, tu vois tous les corps.
Ouais, c'est ouf, hein. Tu vois vraiment les corps qui sont figés dans la terreur, quoi. C'est, ça fait quelque chose aussi, ouais.
Est-ce que t'as un autre voyage qui t'a marqué, qui serait pas forcément solo ou pas forcément histoire, mais qui, pour des raisons.
Dans les gros voyages que j'ai faits qui m'ont marqué, alors il y a le premier. Très gros voyage en dehors d'Europe, c'est quand j'avais 17 ans, donc avec mon papa. Et on est allé en Australie.
Waouh!
Donc trop stylé. Et encore une fois, bah, nous, on a une famille nombreuse, donc vraiment, on mettait la thune là-dedans parce qu'on est 6 enfants, donc on était 8 à voyager. Et du coup, ça coûte un max. Mais voilà. Et donc, ça, c'était. Pour moi, c'était fou. C'était la première fois d'un avion qui dure des heures et des heures, et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Et l'Australie, c'est vrai que. Donc, on était en famille, donc on n'a pas trop rencontré vraiment les gens. Mais juste, mon père, il est très nature, donc on a fait beaucoup de parcs, de vues des animaux et tout. Et tout est si fou en question faune et flore, c'est assez dingue. Ça, ça m'a marqué. Et sinon, mon premier gros voyage d'adulte, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. Je suis allée en voiture avec une association, mais jusqu'au Sénégal. Donc, on a fait... Tout un road trip assez long, on était plein, c'était une association de scoutisme laïque, attention laïque, je précise, qui s'appelle les éclaireurs et éclaireuses de France, et on est descendu en caisse jusqu'à Dakar. Du coup, on s'est fait, on est parti de l'Aveyron, puisque j'étais à Toulouse à l'époque, c'était l'époque, l'équipe Midi-Pyrénées, pardon, et donc on a traversé tout l'Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal, et on est remonté après et tout, et donc j'avais 19 ans, je pense. Et du coup, ça marque. 18 même.
Je sais pas. En combien de temps vous avez fait tout ça ?
Comme on descendait tranquillement en faisant des étapes, on est descendu en 4 semaines et on est remonté en une au retour, si je me souviens bien. Et notamment, on a traversé. Alors maintenant, la Mauritanie, à mon avis, déjà c'était un peu tendu. Enfin, je pense que c'est l'endroit le plus pauvre que j'ai vu. Entre la Mauritanie et le Maroc, qui est un peu un no man's land miné, littéralement. Donc tu passes. Enfin. Entre les deux postes de frontière, c'est vraiment particulier comme ambiance. Tu traverses ça sur une piste qui est tracée par les véhicules précédents et dont il ne faut surtout pas sortir parce qu'il y a des mines. Et du coup, il y a plein de carcasses de voitures retournées dans ce truc-là et des gens qui habitent là-dedans, qui sont soit des criminels ou des trucs comme ça, nous disait-on, parce que comme c'est soumis à aucune loi entre les deux, là, ça peut être un refuge, soit des immigrés qui essayent de remonter et qui sont bloqués. Donc assez horrible. Bref, donc voilà, donc on a fait ça et c'était assez dingue. Je suis pas sûre que maintenant, je crois pas que j'irai en Mauritanie maintenant. Je pense encore plus tendu, mais déjà c'était une sacrée expérience et c'est la première fois et la seule fois où j'ai vu l'Afrique. Et je trouvais ça cool de voir autre chose que. En fait, c'est la première fois que j'allais dans pas le monde occidental. Du coup, j'avais fait l'Australie, mais c'est très occidental comme culture. Et c'était bien aussi de se confronter à ça, même si je me sentais un peu comme une énorme bourgeoise avec mon portefeuille ambulant, vu que forcément, à côté des gens, t'es beaucoup plus riche, mais ça fait du bien, je pense, de checker tes privilèges un peu et te rendre compte de ça, quoi.
On a déjà eu ce beau discours dans Tourista.
Et on pense pareil.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui voyagent, je sais pas comment dire, qui, malgré le fait de voyager, parce que j'ai l'impression que le fait de t'exposer à la différence et tout, déjà, ça te permet d'ouvrir un petit peu les yeux quand même sur ta chance et tout. Et c'est vrai qu'il y a des gens quand même qui sont infects. Je sais pas, il y a des façons de voyager, j'ai l'impression, où tout leur est. Enfin, je sais pas comment décrire, mais.
C'est tout l'aurait dû, ouais. C'est parce que tourisme, parce que l'argent. C'est pas cher, ouais.
Et voilà, plus des trucs hyper crado de tourisme sexuel ou des trucs comme ça qui vont très avec les privilèges des blancs qui peuvent se permettre ça et tout. Bref, donc en tout cas, ça m'a énormément marqué parce que c'était la première fois que j'allais vraiment dans un endroit réellement pas occidental, vraiment bien plus pauvre que ce que j'avais vu jusque-là et que je comprenais un petit peu que. Je vais de la chance dans ma vie. Voilà.
C'était à quel âge ? J'étais à
19 ans. Là, j'avais 19 ans, il me semble. Ouais. 18-19 ans.
Eh bien, super. Non, c'est trop bien. Enfin, je compare à moi mes voyages que j'ai fait à cet âge-là. Effectivement, non, moi, c'était plus. J'étais parti à New York et tout ça. J'ai pas été confronté à tout ça aussitôt. Ça m'aurait fait du bien.
Bah, je l'ai eu là, mais plus pendant très longtemps d'ailleurs. Mais oui.
Alors, Manon, est-ce que tu as réfléchi à des petites anecdotes pour participer au concours Tourista de la meilleure anecdote?
Alors, j'ai des petites anecdotes. J'ai une anecdote littéralement Tourista. J'ai pensé que...
Il n'y en a pas eu encore une fois. Tu as le droit de dire soit le titre de l'émission, soit Tourista si tu veux. Pour, tu vois, pour comme tu te censures comme tu veux.
Mm-hmm.
Pour
incroyable.
Mettre un peu de poésie dans tout ça. Bah, je sais pas. Bah, écoute, allons-y. Hein.
Vrai Tourista. Enfin, genre vraiment. Mm-hmm. Personne ne vous a trop raconté des trucs de Tourista parce que c'est quand même un vrai truc.
Mais non, on n'a pas eu pour l'instant.
Julien, malheureusement, il était trop déçu de ne pas en avoir.
Bah ouais, ça n'est
pas arrivé. Mais bon, voilà.
Écoute, bah, on l'attendait là-dessus quand même.
Bah, si elle est marrante, allons-y. Hein.
Non, mais je crois que c'est la plus violente que j'ai jamais eue de ma life où justement dans le désert. Mauritanie, ou peut-être qu'on était au Maroc à ce moment-là, je sais plus, mais bref. Donc on a ce petit convoi qui suit, et puis non, c'est au retour, du coup je suis que avec mon véhicule et mes potes, bref, peu importe. Mais du coup on est dans le désert, plat, pas très loin de la côte, mais c'est plat, il n'y a pas un relief, il n'y a pas un végétal, et là ça toque à la porte, tu vois. Et du coup, mais vraiment c'est la panique, en plus c'est moi qui conduis. Et tu sais, non, tu t'agrippes fort au volant et puis ça commence à transpirer de partout et tu fais, mon dieu, il va falloir que je m'arrête la Tourista, quoi, comme vous connaissez. Et je me souviens juste, mais de courir le plus loin possible pour n'être plus qu'un point à l'horizon, puisqu'il n'y a pas d'autre solution qu'être un point à l'horizon, tu vois, parce qu'il n'y a rien pour te cacher. Et aller me vider hyper loin avec tous mes potes, hilar, évidemment. Voilà, donc ça, c'était c'est purement juste une anecdote Tourista, mais je me suis dit que j'allais voir.
Écoute, elle est quand même dans
une anecdote Tourista, elle est authentique.
Ah bah oui, elle est dans le concours. Voilà.
On y était.
Pas trop, j'espère. Mais voilà.
Dans la voiture. Il n'y avait pas l'époque, c'était pas Instagram encore à l'époque.
Non.
Parce que là, du coup, avec une visibilité maximum, je pense que ça aurait été triste ce soir.
J'avais même pas Facebook à ce moment-là. Oh là là, c'était une autre époque. Et non, sinon, le truc probablement le plus dingo qui m'est arrivé, je l'ai déjà raconté sur les réseaux, mais je pense que plus que jamais, c'est l'endroit, ce podcast, pour en parler, c'est que j'ai rencontré le poisson Pierre, le fameux poisson le plus venimeux du monde. Et donc, je l'ai touché sans faire exprès me baignant.
Attends, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte? On s'installe, on part en voyage avec toi.
Voilà. On était donc dans une petite île, pas à Tahiti, mais un peu au nord, qui s'appelle Wainé. Et on était hyper calés. Et c'est là où, notamment, on avait un peu prolongé notre séjour, un peu sur nos économies. Donc, on s'était pris un Airbnb trop bien. À savoir, c'était un bungalow, mais notre jardin, c'était une petite plage. Donc, s'il te plaît, tu vois. Et alors, c'était pas très large ou quoi, mais juste le bout de notre truc, c'était la plage juste pour nous. Et c'était fou, c'était incroyable. Et du coup, le matin, on faisait un petit plouf avant de partir et on allait faire les tournages et les machins. Et donc, un matin, je vais me baigner et on nous avait mis un peu en garde contre le poisson-pierre. Vous avez jamais entendu parler du poisson-pierre?
Tu connais ça?
Non, mais je suppose que c'est un poisson qui ressemble à une pierre et si quand tu marches dessus...
Voilà. Si tu regardes sur Google...
J'ai entendu les gars depuis tout à l'heure, je pense à un poisson qui s'appelle Pierre, genre le prénom Pierre.
Bah, peut-être qu'il s'appelait Pierre, en plus celui-là, mais il n'a pas intérêt à croiser ma route, je te le dis.
Tu vis dans un dessin animé, Marie, mais non.
C'est hyper... Mais si vous voulez checker sur Google Images, c'est le truc le plus dégueu que vous avez jamais vu, un poisson pierre, c'est vraiment immonde. Bref.
En forme de pierre.
T'as vu à quoi ça ressemble?
On y est, d'accord, ok.
Tu peux nous le décrire un petit peu?
Eh ben vraiment, ouais, une grosse...
Une sorte de corail...
En fait, tu peux pas le voir. Tu peux pas le voir. Il est vraiment fait pour se camoufler et il est répugnant et dégueu. Et sur son dos, il a, je crois, 13 épines dorsales avec un venin, mais hardcore. Et quand je te dis hardcore, apparemment, c'est dans les 10 douleurs les plus fortes du monde.
Oui.
Mettra cette photo sur Instagram.
Ça sera l'inforiste.
C'est pas horrible.
Le poisson du diable.
Et franchement, mais c'est une aberration de la nature parce que le truc, déjà, il se camoufle. Dents. Tu vois. Il a pas besoin de t'attaquer en plus aussi fort. Je veux dire, il est déjà invisible. Donc.
Mais est-ce qu'on t'avait mis en garde que sur ces plages, il y avait Pierre qui se baladait ou pas?
Alors, figure-toi en fait, on nous avait dit en Polynésie, il y a des poissons Pierre. Et alors là-bas, c'est vraiment. En fait, il n'y a aucune bestiole dangereuse. Il n'y a pas de fauve, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de nana. Il y a deux trucs. Le poisson pierre et le sans-pied que nous, on a eu la chance de ne pas voir, qui est un espèce de gros mille-pattes qui pique très fort aussi. Okay. Voilà. Donc, et il y a apparemment environ 10 cas par an de piqûres sur le poisson-pierre.
J'espère que t'as joué au loto après.
C'était pour moi, voilà, c'était pour moi. Et donc, on nous avait dit, ah ouais, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas, et tout, bon, ok. Puis franchement, vu les statistiques, on ne pensait pas au poisson-pierre quand on se baignait, tu vois, on n'était pas inquiet. Et donc, maintenant, on se baigne, on fait son petit plouf avant de partir. Et en plus, notre petite plage, c'était aussi un départ de plongée, donc il y avait plein de coraux propices aux bestioles, tu vois, les gros cailloux, les gros machins et tout. Et en fait, je nage dans 20 cm d'eau, tu vois, juste je fais la baleine pour me tremper avant d'y aller. Et je mets un petit coup de pied dans le truc, mais j'ai fait... En fait, ça a mis 10 secondes à monter, tu vois. Et du coup, j'ai fait « ouch ». Je me suis relevée tout de suite en me disant « merde, j'ai tapé un corail, j'ai tapé un truc piquant et tout ». Et là, la douleur qui monte, mais un truc, mais... Oh, mais c'est indescriptible. Donc là, j'étais avec mon caméraman et je lui dis oh putain, je crois que je me suis fait piquer par le truc là de merde et tout. Ça fait si mal, vraiment. Donc dans les 10 douleurs les plus fortes du monde, il y a des gens qui meurent tellement c'est. En fait, il y a des arrêts cardiaques parce que tu
trop d'adrénaline.
Si t'es un peu cardiaque ou si tu.
Là, ouais, il pouvait pas aspirer le venin dans la bouche et le cracher.
Ah, non, surtout pas. Enfin,
ils font ça avec les serpents, je crois.
J'en sais rien.
C'est pas ce qui s'est passé.
Et on a eu moult péripéties parce que du coup, il tape sur Google. Alors lui, il n'osait pas me le dire, mais il me fait ah oui, moi aussi, j'ai marché sur une vif en Bretagne une fois. Non, mais là, j'ai très très mal, ok, c'est vraiment pas la même chose.
J'ai aussi une anecdote de vif, mais bon, j'ai pas osé en parler.
Elle compte, mais tu vois. Bref, et c'est là où justement, il voit le truc. Genre les 10 douleurs, des morts, des machins, et il fait Et il me le dit pas sur le moment parce que moi je suis déjà en fait tellement t'as mal, tu hyperventiles, donc c'est vraiment comme ça. C'est dangereux en plongée parce que si tu touches ce truc là sous l'eau, c'est dangereux pour ça. Okay. Il faut pas hyperventiler dans tes bouteilles, c'est pas bon. Tu veux vider ton oxygène d'un coup ou comme ça, ou tu risques de vouloir remonter très vite parce que t'as vraiment hyper mal et c'est dangereux. Bref. Et ce tort de douleur, du coup, j'ai découvert le sens de l'expression. Parce que tellement t'as mal, tu ne peux pas être statique. T'es vraiment... Désolée pour l'audio guide, mais en gros, je me convulse. Et donc, il me dit « Faut mettre de l'eau chaude dessus !» D'accord, d'accord. Alors, je me mets sous la douche et puis j'essaye de garder le pommeau de douche au-dessus du pied, mais j'y arrive pas parce que je suis en mouvement continu.
Tu vois, donc je suis vraiment genre... Vous n'avez pas appelé les
je lui dis, hein, je lui
plutôt
dis,
que se doucher
va
tout seul.
Bah ouais. Va chercher de l'aide. Il a disparu pendant une demi-heure. Bon, j'ai su après. Je pense qu'il devait courir dans le village en me disant avec les bras en l'air.
La douleur, elle était concentrée sur le pied ou est-ce qu'elle remontait?
Alors, ça
un
a
peu,
monté tout doucement, mais c'était. Ça a monté progressivement et j'avais la jambe qui gonflait avec. Elle a eu le temps de monter jusqu'au genou à peu près, mais ça a duré. Longtemps, parce que vous allez voir, je suis loin d'être tirée d'affaire. Bref, donc je suis là avec mon pommeau de douche à attendre qu'il aille chercher de l'aide et à mettre de l'eau chaude. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Mais plus d'eau, tu vois, genre, il n'y a plus rien qui coule parce qu'on est en Polynésie et qu'il n'y a pas de l'eau illimitée. Et là, la douche est finie. Donc je fais « Ok, c'est pas grave !» Je me mets sur le lit et je me convulse dans tous les sens en hurlant. J'entends des voix. Je sors en panique et je dis au gars du Airbnb qui était à côté, en fait « Poisson-pierre, poisson-pierre. Là, tu vois que c'est vraiment le mot magique de... Tout de suite, les Polynésiens, quand tu dis poisson-pierre, c'est... Oh, c'est terrible, tu vois, genre vraiment... Du coup, il me prend en voiture et vite, il m'amène au dispensaire d'à côté. J'arrive au dispensaire à vraiment... Parce que dans cet état où tu hurles et tu gigotes dans tous les sens, et la femme, je vous jure, de l'accueil, il me fait... On prend pas les touristes ici.
Mais...
Du coup, mais en fait, tellement t'as mal, tellement c'est l'urgent, j'ai même pas... négocier une seconde, quoi. Je fais ok, on va au prochain. J'ai même pas essayé, tellement c'est l'urgence absolue, tellement, enfin, c'est hyper fort. Et donc, je suis arrivée au dispensaire suivant, et là, le médecin donc me fait passer devant tout le monde, cool. Et tu sais, vraiment, attrape mon pied pour regarder ma plaie avec mon pied qui bouge dans tous les sens parce que moi, je gigote et j'en peux plus. Il fait ah oui, c'est un poisson-pierre, en effet. Et l'infirmière me dit on va faire une piqûre pour arrêter le venin. Et donc, ils me font une piqûre. Et il me dit ça va faire effet, on revient dans un quart d'heure. Moi, du coup, je déchirais tout, j'avais ma serviette, je tirais dessus comme une tarée, je déchirais tout ce qui me passait sous la main, genre mon drap en tissu là, vous savez, de l'infirmerie, le petit truc, j'ai tout déchiqueté en petits bouts, j'attrapais les compresses et je tirais tout ce qu'il y avait autour de moi. Il me disait non, pose ça. Bref, au bout d'un moment, il m'a fait une petite vidéo de ça parce que tu vois, je savais que le danger était passé, que juste il fallait attendre que la douleur redescende parce que moi j'avais pas fait d'arrêt cardiaque ni rien et que ça allait, tu vois, mais juste t'es là, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que c'est une douleur, mais vraiment c'est indescriptible. Et du coup, je riais, après je pleurais, après là, j'étais dans tous mes états. Donc il fait, bon, moi je suis caméraman, je sais rien faire d'autre que filmer. Alors il m'a filmé, ce con et tout, mais bon, tu vois, autant, on en rigolait un peu et tout, parce qu'on savait qu'on était tirés d'affaire, mais juste, ça fait si mal. Et au bout d'un quart d'heure, le médecin revient et fait, vous avez encore mal. Je vais vous faire une piqûre. Ouais, je sais pas, faites un truc. Donc il fait une piqûre dentalgique, il revient un quart d'heure après. Ah, vous avez encore mal. Bon, je vais vous donner de la morphine. Mais commencez par ça, tu vois. Donc il me donne un cachet. Il me dit, je vous en donne un deuxième, mais pour plus tard, hein, parce que c'est fort quand même. Moi, j'étais là. Comment dire ? Donc j'ai eu une première piqûre de je sais plus quoi pour stopper le venin, une piqûre dentalgique et un cachet de morphine. Je peux vous dire que j'étais, mais genre, je me suis pas sentie shootée une seconde. Ah ouais. Tellement
le truc genre était puissant,
bien plus tard j'ai eu une piqûre dentalgique pour un mal de dos, j'étais complètement défoncée, tu vois, et là j'avais un cachet de morphine, c'est tellement fort ton adrénaline et tout que je me sentais archi normale, enfin normale dans la douleur, mais dès le soir ça a été j'avais plus mal et c'était réglé. Après j'ai eu la jambe très gonflée pendant un moment, j'avais besoin un peu de béquille pour marcher pendant un jour ou deux, mais ça va.
Okay. Et juste pas un trek de prévu le lendemain?
Non, ça va, mais c'était un peu chiant pour finir le tournage, mais on a réussi. Et j'ai quand même bouffé des corticoïdes pendant un mois, quoi, pour calmer le truc. Et en fait avant de reprendre l'avion, parce que du coup j'avais peur de la phlébite et tout, comme ta jambe est méga gonflée, tu vois. Donc je suis allée voir un autre médecin à Tahiti. Et j'ai raconté comment j'avais été reçue entre le dispensaire qui me refuse et l'autre qui est un peu à la cou, genre « Oh, vous avez encore mal et tout ?» Et il m'a dit « Ah ouais, ah non, mais ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. Nous, ici, quand il y a des gens qui arrivent et qui sont fait piquer par le poisson-pierre, on appelle l'anesthésiste, en fait. Et on anesthésie le membre, tellement ça fait mal, tu vois. » Et t'es là « Ah, d'accord,
Là, on t'a dit « Bon, prenez un dolly. »
Ouais, limite, tu vois, enfin, c'était plus que ça, j'exagère, mais ouais, exactement, mais... c'était un peu le truc. Et du coup, bon, bref, donc j'ai eu de la chance dans mon malheur parce que je l'ai juste, j'ai juste mis un petit coup de pied dedans, en fait. Il y a des gens qui marchent dessus de tout leur poids, qui se pètent les, aiguilles, enfin, il y a...
Ah oui, l'aiguille qui reste.
Alors, mais c'est un truc de fou, tu tombes dans les pommes, en fait, Et en fait, il me disait, le médecin, que les Polynésiens, ils étaient très durs au mal, donc ils vont pas forcément derrière... Chez le médecin, ils attendent que ça passe et tout, mais c'est pas forcément toujours bien soigné et qu'après, derrière, ça nécrose, c'est un truc de fou. Bref, donc moi, j'ai été bien prise en charge après et tout va bien. Et franchement, juste un très mauvais moment à passer, mais c'est tout, fin d'histoire, donc tout va bien. Mais c'était pareil, je me souviens de Patrick Beau, spécialiste de l'insolite, qui me dit « Tu t'es fait piquer par le poisson le plus dangereux au monde !» et tout. Tout de suite, tu vois, c'est bon, ça me fait mon petit récit de voyage. J'espère que je vais gagner le concours des anecdotes parce que ça m'a fait suffisamment mal.
C'est un peu la Lara Croft de YouTube, hein. C'est bon, hein, t'as gagné, tu vois.
C'est vrai. Ouais. Voilà, et donc un mois de corticoïdes. J'avais deux semaines, et au bout de deux semaines de traitement, j'ai terminé mon traitement, mon pied, direct regonflé. Direct, donc rebelote deux semaines, j'ai pris.
Donc faites attention au poisson Pierre. Mais oui, demandez au poisson comment il s'appelle.
Et puis, c'est clair, comment tu t'appelles ? Je l'ai jamais vu en plus avec son camouflage et tout, là je le hais. Mais bref, mais vraiment pas de chance en vrai, il n'y a même pas à avoir peur parce que, enfin encore une fois, 10 cas par an, c'est juste une saloperie qui est au fond de l'eau et donc faut vraiment aller lui marcher dessus, tu vois. Donc c'est vraiment pas de chance. Enfin, ça n'arrive pas, quoi.
J'ai failli aller à Nouméa fut un temps. Et à Nouméa, il y a apparemment des serpents qui s'appellent les tricoriers. Et genre, on me disait, il y en a partout, c'est cool. Mais en fait, avant de remettre ses chaussures, il faut juste vérifier qu'ils ne soient pas venus se mettre dedans parce qu'ils aiment bien se foutre dedans. Et en gros, bah, je ne suis pas allé à Nouméa à cause de ça. Hein.
C'est vrai,
ouais. Non,
non, pas exactement. Mais genre, à l'époque, j'étais angoissé. Apparemment, il y en avait qui nageaient. Et il y a des tricoriers partout, quoi. Enfin, c'était ce qu'on m'avait raconté. Bon, alors merci pour toutes ces aventures. Tu es officiellement la Lara Croft de YouTube France. C'est bon.
Sorry Charlie.
Sorry Charlie.
Est-ce que tu as sur ta bucket list quelque chose que tu n'as pas encore fait ?
Enfin, ça va être très facilement réalisable, mais par exemple, je ne suis jamais allée en Amérique latine. Tout simplement.
Pas du tout.
Never.
Rien du tout.
Non, c'est le seul continent que je n'ai pas fait du coup.
Et alors, tirer où ?
Le Mexique m'attire parce que je crois que tout le monde t'a fait une bonne image du Mexique à un moment. Et le Costa Rica, ça a l'air assez chouettos. Mais si vous avez des conseils, je les prends, d'ailleurs.
Amérique du Sud, vraiment, tu te régales
partout. Toi, tu es allée toute seule, du coup.
Ouais, j'y suis allée
toute
seule.
Ça, je me demandais. pour une meuf toute seule, si ça fait peur ou si ça va.
Bah, c'est un peu plus le sexisme. Bon, il y en a aussi en Asie. Hein, petite parenthèse, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de harcèlement de rue en Asie. Mais par exemple, quand on est une femme grosse, pour celles qui ne savent pas, enfin, les auditeurs qui ne savent pas, mais moi, je parle beaucoup de ça. Et en Asie, ils voient très peu de personnes grosses. Donc, tu te fais toucher parce que t'es grosse et donc, c'est un peu spécial.
Ouais, tu m'as raconté une anecdote dans un bus où il se.
Bus était infernal.
Ouais.
Déjà, moi, il faut dire que j'étais à peu près la taille max pour entrer dans tous les endroits, tu vois, genre dans les bus, etc. Donc, tu fais 2-3 tailles de plus que moi, il y a potentiellement des moyens de transport auxquels t'auras pas accès. Et surtout, moi, j'arrive, il y a que des locaux dans le bus. Et genre, ils me regardent, ils font waouh, waouh, machin, trop bizarre et tout. Et puis, je dormais entre deux gars. Genre, je me suis vraiment allongée, serrée là dans mon mini truc. Je me suis mise à chialer parce que c'était un bus de 12 heures, évidemment, sinon c'est pas marrant, tu vois. Et les deux mecs qui étaient un peu gênés, enfin, genre qui étaient saoulés que je sois là. Et en même temps, c'était pas. C'est juste que nous, on ferait pas ça, tu vois. Tu vois pas quelqu'un de gros, tu fais bah, il est gros, tu vois, ou n'importe quelle différence. Là-bas, c'était un peu genre, c'était hyper étonnant, genre waouh. Et donc du coup, j'ai eu des personnes âgées qui venaient, qui me tapaient les cuisses, qui disaient oh, elle mange bien et tout. Et j'étais en mode, me touchez pas, vous êtes très bizarre à toucher les gens que que vous connaissez pas là. Mais j'ai pas non plus, enfin tu vois, c'était pas des insultes quoi.
Ouais, ouais.
Et donc pour en revenir à l'Amérique du Sud pour le coup, alors là moi il y a des villes entières où je marchais juste et tu te fais siffler de partout, t'es là mais laissez-moi tranquille.
Mais ça m'inquiète un peu.
Mais je vais te dire pas plus qu'à Paris, tu vois. Genre
oui, bah c'est une bonne réponse, t'as bien raison.
Donc ça m'a pas empêché d'y aller. Et si tu veux des conseils, des voyages,
j'ai envie d'aller au Pérou.
Ouais. Mais c'est ce que j'allais dire le Pérou. C'est vrai que c'est le Machu Picchu quoi, cette marée du monde, enfin c'est hyper, c'est incroyable. Et puis la ville qui est à côté qui s'appelle Cusco est trop cool, les je sais pas, c'était
c'est
vraiment
un très bon dessin animé.
Et Cusco est un très bon dessin animé, l'empereur mégalo.
Mégaref.
Et oui.
Merci beaucoup Manon pour toutes ces aventures. Merci aux touristos et aux touristas pour tous les commentaires que vous nous laissez. D'ailleurs, j'ai vu que on avait demandé de mettre des petits commentaires, si vous pouviez mettre des petits commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que c'est ça qui nous fait remonter, qui nous fait prendre un peu de nous faire grandir et tout, un peu d'ampleur. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous dit de nous donner votre avis là-dessus, ça serait parfait. Et d'ailleurs, j'essaie de voir si on peut faire un épisode en public bientôt. Je commence à avoir 2-3 pistes. Si vous
teaser.
Avez, si vous bah, avez... teaser, mais si vous avez un... Pardon
Non, vas-y, finis. Non.
Si vous êtes le gérant de, je sais pas moi, de la Tour Eiffel et que vous nous invitez, je vois, au hasard, pour voyager un
au
peu,
hasard,
on peut inviter 30-40 personnes, on prendra un ou deux invités. Enfin bref, j'essaie de voir comment on peut organiser ça bientôt. Et puis, et si vous avez des idées d'invités.
J'en ai une.
Ah, Manon.
Il faut que tu proposes à Charles Villa.
Ah, Charles Villa.
Parce que là, en termes d'anecdotes de voyage, tu vois le grand reporter de Brut.
Ouais.
Ça va pas être le voyage vacances, mais là, je pense que tu as des anecdotes.
Je pense qu'il y a du lourd.
Oh là là. Si t'as le contact, je prendrais bien un petit contact.
Je vais le tirer.
Ben nickel. Et ben voilà. Et donc, merci Manon. Donc, tu pourras mettre ce petit commentaire sur Apple Podcast avec un 5 étoiles pour que ça nous fasse remonter un petit peu. Merci beaucoup. Et voilà, merci encore pour tout. À bientôt. Marie, encore merci.
Merci, Maxime.
Voilà, et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, j'ai oublié comment on faisait, quoi. À bientôt.
Bye bye.
Ça, je n'oublie. Oh putain, c'était fort dans mon oreille.
Ah mais, pardon.
Non, c'est moi qui m'y...
Je suis bavarde.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.